Alors, je voulais commencer par un petit témoignage. Il y a Ellie qui va me faire les gros yeux à un moment. Voilà. Un témoignage personnel pour lancer un peu cette question qui vous allez le voir, m'encombre depuis des années, la question de la transformation de nos vies, en particulier du lien qu'on a entre nous dans l'époque telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui. En gros, il y a 20 ans, j'étais jeune adulte et je commençais à me dire que le monde tournait vraiment pas rond et qu'on allait vers quelque chose qu'on connaissait pas, mais qui était assez imprévisible et assez effrayant. Et du coup, je me disais, avec les copains avec lesquels j'étais, qui partageaient les mêmes idées que moi, moi je me disais, mais forcément, on va changer les façons, enfin, on va pas rentrer dans un mode de vie conventionnel. On va trouver d'autres façons de vivre pour se dégager des leviers d'action qui nous permettent de réagir par rapport à ce qui nous arrive, quoi. J'imaginais pas qu'on puisse suivre les chemins plus ou moins conventionnels, en fait, qui, de mon point de vue, limitaient forcément les degrés de liberté et d'action. Et en fait, les copains, ils sont mariés, ils ont trouvé un boulot, ils ont choisi des modes de vie qui finalement étaient assez classiques. Et je me suis retrouvé un peu tout seul avec mes grandes idées. Et puis 10 ans plus tard, il y a eu un peu la même chose justement avec Ellie et la bande là, où pareil, j'avais trouvé des amis avec qui je me disais, oh, voilà, on est encore en résonance sur le constat, et donc forcément, on va être en résonance aussi sur les choses à mettre en œuvre. Alors, on aurait voulu commencer à créer des lieux de vie un peu collectifs. Et moi-même, j'étais plein de peur à l'époque, donc j'ai ma part de responsabilité si ça s'est pas fait. Mais toujours est-il que, nouvel échec, on n'avait encore pas changé, transformé nos façons de vivre. Et puis voilà, après j'ai eu des soucis de santé pendant pas mal d'années, et puis voilà, là ça va mieux, du coup je suis encore avec ma grande idée. Et donc avec cette question, quoi, si l'état du monde est ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on fait structurellement et dans le lien entre nous? Alors, en fait, il y aurait, donc, sur l'apport que je vous propose, il y aurait un temps de constat assez rapide, un temps pour dire les solutions qu'on a actuellement en face de ces constats, et puis un temps plus long pour parler d'autres solutions. Alors, le constat en 3 points. Le premier point, on est source de violence dans le monde. On ne peut pas faire grand-chose sans pétrole, pour se vêtir, pour se déplacer. On ne peut pas faire grand-chose sans nos téléphones, même s'il y en a qui s'en passent. À tous les niveaux, en fait, dans tous les domaines de notre vie, on est amené à nuire à la création, à nuire aux frères et sœurs humains à l'autre bout du monde, qui sont dans les mines ou ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'histoire humaine. Premier point du constat, on est source de souffrance pour le monde. Deuxième point, on souffre nous-mêmes. Et ça, en fait, c'est peut-être moins évident, mais j'ai fait toute une petite liste, je peux vous en proposer certains bouts. Déjà, faire souffrir, c'est une souffrance, parce qu'on n'est pas sur Terre, Dieu, si on est croyant, ne nous a pas placés sur Terre pour qu'on détruise sa création, mais plutôt pour qu'on y contribue. Donc en soi, déjà, le premier point que je disais, on est source de souffrance. Ben déjà, c'est une souffrance d'être source de souffrance. Et après, pêle-mêle, en fait, pour des gens, trouver un travail qui sera porteur de sens et source de rémunération, ben c'est pas évident. Du coup, c'est une souffrance. Répondre aux injonctions de perfection, pardon, qu'on nous inflige sur Instagram ou quoi, ou même dans la société en général, c'est une souffrance. Désapprendre les comportements déviants que la société nous a apprises, bah, c'est pas facile non plus. On peut aimer consommer, enfin, il y a la publicité partout, il y a le tabac, il y a le patriarcat qui a mis des choses en nous, la vie hors sol dans les villes, etc. Toutes les addictions diverses, je sais plus si je l'ai dit déjà. Il y a des gens pour qui la santé, et même sûrement beaucoup de gens pour qui la santé est impactée par toutes les cochonneries de notre temps. Pour certains, ils se demandent s'ils doivent être parents ou non. C'est quand même pas une question anodine pour l'équilibre des personnes d'en venir à se poser ces questions-là. Voilà. Et la liste serait sûrement très longue encore. Donc, on est source de souffrance, on souffre. Et le troisième point, et après ça arrête d'être glauque, je vous promets, c'est, mais il est glauque quand même celui-là, on va vers le pire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on connaît actuellement, et on sait, pour l'entendre au moins, qu'on est sur une pente qui est descendante, et on parle d'effondrement même, qui serait comme des ruptures de pente. Alors, il me semble que sur ce point-là, on a comme un problème de croire à ce qu'on sait. C'est-à-dire que actuellement, dans les magasins, il y a toujours à manger, on a de l'électricité quand on branche le téléphone et tout ça. Du coup, c'est des réalités dont on n'a pas réellement la. Il y a personne assez vieux ici pour avoir connu la guerre, au moins la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a pas expérimenté ça pour l'instant, à part un peu le Covid, quoi. Mais donc en fait, ce qu'on s'apprête à vivre pour l'instant, on l'entend mais on le vit pas, donc on l'incarne pas. Et voilà, je m'arrête sur le constat parce qu'en fait, on est déjà probablement tous au courant. Mais j'avais besoin de repréciser ces points-là pour dire que c'est gros, quoi, ce qu'on a en face de nous, que c'est pas du tout anodin. Et justement, en fait, face à ça, et j'ai beaucoup de respect pour moi-même, je suis un militant des causes environnementales et sociales, j'aime bien me nourrir de ces espaces de lutte, donc je suis pas spécialement contre, mais j'ai l'impression, enfin, notamment par exemple sur les réseaux lutte et contemplation, on voit passer beaucoup d'appels à des pétitions, à des boycotts des fois, enfin, des choses, et puis des fois des choses quand même plus impactante aussi, mais pardon, toujours ces associations, ces groupes militants, ils pointent le regard en dehors d'eux-mêmes, c'est-à-dire que tous les regards du groupe militant se focalisent vers l'extérieur, ça peut être vers Total ou vers ICOP ou vers la pub de je sais pas qui ou vers Trump, on se focalise vers l'extérieur et jamais en fait on regarde à l'intérieur de nous-mêmes pour voir ce qui s'y passe. J'ai un exemple qui est assez frappant sur le groupe WhatsApp de le groupe plutôt échange libre de lutte et contemplation. Il y avait des discussions sur, il y a plein de discussions. Il y avait des discussions un peu sur ce sujet-là, en fait. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, moi, en fait, ce qui m'aide, c'est, me rappeler la parole de telle ou telle sainte et de me dire que voilà, je fais bien, je fais de mon mieux, dans ma réalité et ça m'aide. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je me suis dit, en fait, c'est ça la limite actuelle de notre ambition militante sur notre intériorité, en fait. C'est, on crée un espace où les gens peuvent dire comment ils gèrent chacun leur désarroi individuellement dans leur vie. Et c'est ça actuellement qui est proposé. Mince. Bon. Et du coup, c'est là où j'ai envie de mettre en regard ce que j'ai dit juste à l'instant sur on est source de nuisance, enfin de souffrance, on souffre et on va vers un pire qu'on connaît pas, donc qui a l'air pas cool. Ça, c'est... Voilà le constat. Et en face, j'ai l'impression que le compte n'y est pas. Donc, d'où la soirée de ce soir, quoi, tout simplement. Petit 3, la proposition du pape. Et en fait, dans Laudato si, que vous avez tous lu, il y a un petit espace qui parle de ce sujet-là, qui est court, mais qui est très intense pour autant, et que je vais vous lire. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. Bon, ça, on est d'accord. Voilà, les petits gestes. Ensuite, les exigences de cette œuvre seront si immenses que les possibilités de l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y répondre. D'ailleurs, qui met dans le même sac les initiatives individuelles, qu'on a dit qu'elles étaient probablement pas suffisantes, et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes. Pour lui, ça c'est pas opérant en fait. Et il continue, seule une autre attitude provoquera l'union des forces et l'unité des réalisations nécessaires. Une autre attitude. Mais alors du coup, c'est quoi cette autre attitude? Il me semble que du coup, c'est une bonne question à se poser dans un collectif militant. C'est quoi cette autre attitude? Parce que si on se la pose pas, on reproduit forcément les schémas d'avant qui sont. Alors, on va revenir sur le mot individualiste, mais les principes individualistes qui pourront pas répondre. Voilà, il finit. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Et du coup, nous chrétiens, on connaît l'importance du mot conversion, quoi, qui est, qui n'est pas juste une transformation, qui est pas juste, qui est vraiment un retournement des pratiques, quoi, et pas que des pratiques, un retournement de l'être. Et du coup, voilà, comment on se pose la question de ça? Alors, juste un mot sur cette histoire d'individualisme, parce que ça va pas forcément de soi. En fait, il me semble qu'on est dans une époque qui a été influencée par l'époque précédente, et qu'il y a eu les Trente Glorieuses, où en fait, il y avait à profusion des biens de consommation, il y avait le pavillon individuel qui arrivait, il y avait la voiture individuelle, il y avait tout un tas de choses en fait qui coïncidaient avec les idées de l'époque qui étaient qu'on se libérait, enfin qu'on devenait libre individuellement en fait. Et du coup ça a été vrai dans les années 50, 60, 70. Et puis en fait depuis on s'est pris les chocs pétroliers, puis ensuite des crises, et en fait sans s'en rendre compte on n'est plus du tout dans le contexte des Trente Glorieuses, mais par contre on a encore l'idéologie qui parce qu'on ne l'a pas remise en cause, et c'est encore cette idéologie là qui prime aussi, parce qu'elle colle assez bien avec peut-être des aspirations à l'intérieur de nous qui sont assez naturelles aussi. Et du coup en fait on en arrive à avoir. C'est pour ça que j'avais. Je ne sais plus si je vais retrouver mon petit. Voilà. Je laisserai. J'en ai imprimé juste un, mais j'ai écrit des petits trucs sur le sujet. Et il y en a un qui s'appelle Garde-t-on ses moufles en été, avec un monsieur qui s'apprête à jouer du violon et il transpire parce que c'est l'été et il a des moufles. En fait, c'était pour illustrer que l'individualisme à une époque de crise comme aujourd'hui, c'est à peu près aussi pratique que des moufles pour jouer du violon l'été. C'est anachronique et ça n'a rien à faire là, quoi. Et du coup. Ces principes individualistes qui ne pourront pas répondre aux problèmes, pour moi, ils viennent de là. Et maintenant, en fait, je pense que tout le reste du travail, il sera à faire ensemble, mais j'ai encore quelques petits mots à dire. Mais on peut se poser la question, c'est quoi la substance de cette autre, alors, dont parle le pape, de cette autre attitude? Alors, en fait, pour commencer, un des premiers principes, ça pourrait être. Alors, si je pose la question pour commencer, est-ce que c'est inévitable, au début on disait on est source de souffrance, et on peut se demander si c'est inévitable, est-ce que l'être humain aujourd'hui doit nuire pour vivre? Est-ce qu'on peut faire sans nuire? On est assez vite tenté de se dire, pas évident quoi, à moins d'être un ermite, etc., c'est vraiment pas évident. Et pourtant, si on pose cette même question à des gens il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 10 000 ans, ils comprendraient pas vraiment la question en fait. Et en fait, c'est les mêmes êtres humains il y a 10 000 ans, 1000 ans ou 100 ans et aujourd'hui. Et ce qui a changé, c'est la structure qui fait qu'on est amené à nuire. C'est la structure société qui fait qu'à un moment donné, ce qui était absolument évident est devenu absolument impossible. Donc c'est pour montrer la puissance des structures, comment elles façonnent notre réalité, et que du coup, peut-être un des principes de l'autre attitude dont parle le pape, ça serait de créer des sous-structures qui fassent comme à contre-courant et qui fasse que dans ces sous-structures, il soit, on puisse essayer de retrouver en fait de manière vivable, parce que si on reproduit une structure qui arrive à recréer des conditions dans lesquelles on peut vivre sans nuire, en fait chaque individu dedans, il n'aura pas de mal à vivre sans nuire parce qu'il sera dans cette sous-structure là, quoi. C'était Peter Morin qui disait faire une société où il serait plus facile d'être bon. Ça me parle beaucoup. Bref, donc ça pourrait être un premier élément. Alors après, il y a des formes multiples qui peuvent exister. Il y a des communautés, des lieux de vie comme l'Arche de Lanza del Vasto. Il y a des tiers-lieux comme le Dorothy à Paris. Donc ça peut être différent dans la forme, ça peut être différent graduellement aussi. Ça peut être très intense ou ça peut être très léger. Mais j'ai l'impression que ce qui compte, c'est d'avoir une visée, quoi, en fait, et de réfléchir à comment on avance peu à peu selon cette visée, avec un principe de regarder en soi pour aider dans la structure en question, dans les groupes militants, aider chacun à avancer dans cet axe-là, quoi. Et juste, en prenant pour exemple l'Arche de Lanza del Vasto, il m'a semblé qu'il y avait quatre éléments qui étaient intéressants. Premier élément, il m'a semblé qu'on était du coup moins nuisible, comme je disais à l'instant, parce que la mutualisation, parce que la vie simple, dans un collectif, les gens vivent ensemble et qui servent du coup sans aucune douleur, très peu de leur téléphone, c'est beaucoup plus facile que quand on est éclaté dans des tas de lieux différents et que du coup pour communiquer forcément on a besoin du téléphone. C'est aussi plus puissant. On l'a vu, Lanza, notamment par exemple sur la lutte du Larzac, il a pu, par la pratique quotidienne, un peu de la non-violence, etc., s'imprégner de cette culture-là et du coup avoir une vraie voix différente qui lui a permis d'agir vraiment de manière efficace. Et aussi, quand on mutualise, etc., on développe des leviers d'action beaucoup plus importants, que ce soit financiers ou matériels ou au niveau du temps qu'on a à disposition. C'est aussi plus solide parce que c'était Benoît du Guenvesque qui disait, mais le félin ne s'attaque pas à un troupeau, mais à un individu isolé. Et donc, en fait, quand on est ensemble, on est moins aussi sensible aux agressions, par exemple, à toutes les agressions qu'on a listées tout à l'heure, quoi. De stress ou de besoin de gagner de l'argent enfin, de se débrouiller par soi-même, quoi. Et puis, le dernier point, qui est pour moi le plus important, il n'est pas dans l'efficacité, mais il est dans la. Pour moi, c'est aussi des chemins de croissance humain. Et ça part du principe de considérer que le chemin de croissance aujourd'hui de la société actuelle, qui nous oriente vers justement la technologie, l'accélération, la puissance, etc., ce n'est pas des chemins qui font vibrer notre âme humaine et chrétienne, et que du coup, créer d'autres structures, ça permet aussi d'autres chemins de croissance. Et du coup, en fait, ouais, c'est ça que je trouvais aussi important à dire, on pourrait se dire, ah mince, le monde va mal, donc, bien obligé, il faut qu'on recrée autre chose, quoi, pour être plus fort, quoi. Mais en fait, ça c'est une vision un peu triste de voir les choses. À mon sens, c'est plutôt le monde va mal, mince, du coup on crée autre chose, mais en fait c'est heureux tout ça. Pour moi, ce chemin-là, en fait, il n'est pas d'abord utile pour survivre, ou utile pour lutter plus fort, ou utile pour autre chose, mais il est d'abord un chemin de croissance intérieure, quoi, qui est plus conforme avec l'Évangile qu'avec justement ce que nous propose la modernité. Voilà. Alors avant le temps de clarification qui ouvrira sur les temps de groupe, je fais comme une petite introduction quand même sur ce travail. En fait, pourquoi faire ce travail ensemble? Pourquoi je propose une soirée où on parle de ça plutôt que le faire chacun de son côté? Parce qu'en fait, on peut me dire, mais vas-y, fais ton écolieu ou va où tu veux, Olivier, c'est bien, mais laisse-nous tranquille ce soir. Et en fait, oui, j'aimerais bien, mais je constate qu'il y a des freins en moi et des difficultés. On sait très bien que quand on est dans une société donnée, il y a des tas d'habitudes, des tas d'habitudes sociales qui sont intégrées en nous et qui peuvent être autant de freins à des transformations. Et que du coup, ces habitudes, ces comportements sociaux, c'est hyper difficile de les changer tout seul. On les change beaucoup plus facilement quand on a le miroir de l'autre en face et quand on constate que l'autre il a les mêmes difficultés et que du coup on trouve ensemble comment les lever. Je trouve que c'est assez proche de la du mouvement, enfin des dynamiques féministes. On peut faire un féminisme où c'est les femmes qui, de manière très intime, constatent pour elles-mêmes ce qui dysfonctionne dans la société et qui essaient de composer avec juste elle-même ou dans des petits réseaux. Ou alors on peut mettre ça, et c'est ce qu'elles ont fait et c'est très bien, on peut mettre ça sur la place publique et dire en fait il y a des vrais problèmes et c'est inscrit en nous tous, et du coup c'est un problème qu'il faut politiquement ensemble résoudre. Et je trouve que c'est un peu la même démarche, quoi. Il y a des biais individualistes en nous qui nous empêchent de convertir, d'entrer dans cette conversion communautaire que le pape voit comme absolument nécessaire. Et du coup, posons ça sur la place publique et discutons-en entre nous. Voilà. J'ai des fois un peu l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs avant de lancer des actions qui veulent être directement efficaces, effectivement, et directement parce que effectivement les baleines meurent ou le machin, et qu'il faut tout de suite aller sur ce terrain pour tout de suite sauver les choses, parce qu'il y a une espèce effectivement d'agitation intérieure qui nous met en mouvement. Moi, je préférerais effectivement qu'on. J'avais une image. C'est un peu comme si on semait des radis, des fois. Alors, les radis, ça pousse très vite, mais il faut les semer toutes les 3 semaines parce que, enfin, voilà, une fois que c'est mangé, après, il faut en ressemer d'autres, quoi. Mais l'intérêt, c'est que ça pousse très vite. Donc, ça, c'est un peu l'action militante. Et je me dis, si des fois on plantait aussi un peu des châtaigniers, eh ben, ça pousse beaucoup plus lentement. Mais par contre, une fois que l'arbre il est là, tous les ans, on a des quantités de châtaignes. Et du coup, ouais, c'est un peu cette double temporalité-là. C'est-à-dire, d'abord, enfin, semer des radis aussi, parce qu'on a besoin de manger tout de suite, mais penser aussi à planter des chênes, quoi. Des châtaigniers, plutôt. Chênes, c'est pas terrible. Vous avez parlé de vulnérabilité, là, quand ça parlait dans ce groupe, et je suis un peu déçu, parce que moi, je comptais en parler, et dans ce que je disais tout à l'heure, et puis en fait, j'ai pas. J'arrivais un peu au bout de ce que je pouvais faire au niveau de ma concentration et tout ça. Mais j'aimerais bien, je ne sais pas si je vais réussir à exprimer quelque chose, mais j'aimerais bien exprimer quelque chose quand même, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est central dans cette histoire de collectif et de communauté. Dans le sens où, en fait, ouais, c'est ça, quand, bah, c'est un peu le coup des 30 glorieuses, quoi. Quand on se croit tout puissant et qu'on n'a pas de problème, c'est la plus grande des tristesses parce qu'on n'a pas besoin des autres et que c'est du moment qu'on commence à avoir besoin des autres mais pas de manière anodine ou accessoire mais que ça devient vraiment en profondeur. On peut dire c'est une calamité pas possible parce que du coup on devient dépendant et effectivement c'est effectivement une calamité pas possible si on est dans une société qui rejette la vulnérabilité parce que du coup on devient un assisté, on devient et humainement c'est hyper difficile à vivre. Et pour moi, c'est tout l'enjeu, en fait. Parce que cette grâce-là qui est que j'ai besoin de toi pour m'aider, pour vivre, ça installe des relations aimantes profondes qui n'existeraient pas sinon, parce qu'on n'aurait pas besoin. Et donc, c'est merveilleux. Et seulement, ça ne peut exister que si on est dans un espace qui valorise et qui soutient ce genre de démarche. Et pour moi, c'est tout l'enjeu, en fait, de cette société qui est en train de plonger peu à peu vers des situations, des conditions de vie de plus en plus difficiles. Nous, peut-être, ça ne nous touche pas encore très fortement, ça dépend probablement de chaque personne ici, mais il y a des situations beaucoup plus difficiles que ça. Mais on sait qu'on est en train de glisser, et donc si on arrive à une société où on garde cette mentalité-là, mais où on s'affaiblit progressivement, ben en fait, ça va devenir invivable. Et si, par contre, on convertit notre façon d'être ensemble, eh ben, j'ai l'impression que c'est là qu'on touche à l'évangile, en fait, réellement. Que l'entraide invite à des liens d'amour qui n'existeraient pas sinon. Et pour illustrer ça, je voudrais juste vous lire un tout petit texte de Sœur Emmanuelle sur son expérience quand elle était au Caire, chez les chiffonniers. Elle dit « Pourquoi avaient-ils cette exaltation, ces enfants ? Pas de jouets, bien sûr, ça n'existait pas. Je crois que c'est ça. Il y avait une sorte de convivialité dans le bidonville. Tous les enfants jouaient ensemble, avec un bout de ficelle, un bout de bois, couraient à travers les ruelles en chantant. Tout le monde applaudissait. Il y avait donc, dans la communication, quelque chose de tellement simple, mais fort, mais quotidien, on pourrait dire à chaque instant. » qui faisait que ça donnait sens à la vie à travers ces difficultés. Je sais pas, on montait en cordée. C'est quelque chose de vivre en cordée, avec des centaines et des milliers. Tout le monde se connaît, se sourit, s'interpelle. Et puis un peu plus tard, elle disait, « En France, je suis frappé que les hommes communiquent de moins en moins. Chacun vit pour soi, se fait une sorte de cercle où il y a quelques amis, et puis c'est tout. » Et voilà. Et du coup, ouais, c'est ça. Tout ce qui a été rendu possible, tristement possible par la modernité, par le luxe, par le confort, etc., qui a fait qu'on a pu vivre les uns sans les autres. Du coup, pour moi, il y a un enjeu de communauté là qui est très fort. Et voilà. Le petit mot de vulnérabilité que je voulais dire pour finir. Pour conclure, garder cette invitation à cette autre attitude un peu mystérieuse. Comment on construit cette autre attitude dans nos réseaux militants ou pas militants, dans nos communautés, dans tout ça. Ça peut être ça l'invitation finale.